Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Judas est-il un traître ? Est-il au contraire l'homme qui a été le plus proche de Jésus, son complice, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi ? Eh bien, à cette question, l'historien Jacques Duquesne apporte sa réponse et il sera mon invité pour cette première partie des aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Judas, le deuxième jour, c'est le titre du nouvel ouvrage de Jacques Duquesne et ce livre est paru aux éditions Plomb. En deuxième partie d'émission, je recevrai David Denery, le directeur de publication du magazine Nexus, magazine qui est réalisé dans notre grand sud-ouest. D'ailleurs, nous ferons le tour du sommaire du nouveau numéro qui vient de sortir avec comme gros dossier la présence extraterrestre avec, vous allez le constater, des hypothèses tout à fait étonnantes. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, n'hésitez pas à me contacter. Vous connaissez le numéro de téléphone 0826 300 300 pour une prochaine émission consacrée à vos témoignages. Vous savez que nous sommes en plein déménagement Sud Radio. Nous avons quitté nos locaux de place Alphonse Jourdain pour nous installer à la Belge. Vous en avez entendu parler très largement sur notre antenne, notamment avec les Chevaliers du Fiel. Donc, d'ici quelques temps, lorsque nous aurons complètement terminé notre installation, on réalisera ce genre d'émission avec vos témoignages. Ne vous inquiétez pas. 0826 300 300 pour me contacter. Direction la boîte vocale des aventuriers de l'étrange.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Jacques Duquesne, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avant toute chose, je vous présente tous mes vœux pour cette année 2008.
Et moi de même, et à votre radio et à vos auditeurs aussi.
Merci beaucoup. Je vous reçois à l'occasion de la publication de votre livre chez Plomb, intitulé « Judas, le deuxième jour ». D'abord, qu'est-ce qui vous a, j'ai une idée de la réponse, mais qu'est-ce qui vous a poussé à travailler autant pour nous livrer un très beau texte, je dois l'avouer, concernant Judas ? C'est cette histoire de traître universel ?
Oui, parce que c'est le problème du mal, si vous voulez. Je suis assez, comment dire, tourmenté serait peut-être un très grand mot, mais enfin, je suis très passionné par le problème du mal, parce que je vois que, moi qui suis croyant, que des tas de gens se détournent de la foi, hein, en un quelconque dieu d'ailleurs, pas seulement dans le dieu de Jésus-Christ, mais dans tous les dieux, en disant s'il y avait un dieu et qu'il aime les hommes, alors des tas d'événements ne se produiraient pas, la souffrance, des phénomènes comme le tsunami. Je veux dire, les gens peuvent bien comprendre que le mal existe parce que les hommes se font mal. Bien sûr, quand il y a des guerres, etc., c'est pas la faute d'un dieu quelconque, c'est la faute. Et le pire, d'ailleurs, c'est qu'il y ait parfois des guerres de religion, chacun se battant au nom de son dieu, au nom de sa foi, contre les autres. Ça, c'est la chose la plus abominable qu'on puisse imaginer, mais enfin, ça tient à la liberté des hommes, ça. Mais un accident comme le tsunami, par exemple, qui a fait des centaines de victimes et tous les dégâts que l'on sait, là, vraiment, là, les gens s'interrogent et se disent, mais s'il y avait un dieu, tout ça n'arriverait pas. Moi, j'entends ça régulièrement, et donc c'est un problème qui me poursuit, et d'ailleurs, après ce livre sur Judas, je continue à travailler sur ce problème du mal. Et donc, bon, Judas, finalement, a pris la figure du mal incarné, n'est-ce pas ? C'est le traître qui, facilite la mort de Jésus, qui, lui, représente l'amour incarné, le bien incarné, qui ne prêche que l'amour, etc., qui dit même une parole extraordinaire, qui dit même « aimez vos ennemis ». Vous savez, souvent, quand on cite Jésus, si je prenais les gens dans la rue et que je leur demande « qu'a dit Jésus ?», bon, beaucoup me diraient « aimez-vous les uns les autres ». Bon, ça, Jésus n'est pas le seul à l'avoir dit à l'époque, qu'il y avait des rabbins juifs de son époque, comme le rabbin Hillel, notamment, qui était un personnage important de l'époque, qui le disait. Mais aimez vos ennemis, c'est vraiment une exclusivité de Jésus qui est tout à fait extraordinaire, parce que bon, c'est pas facile d'aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire, bien sûr, leur laisser faire tout ce qu'ils veulent faire. Pour prendre un exemple simple, il fallait pas aimer Hitler, ça ne signifie pas laisser faire Hitler.
Bien sûr.
Mais en même temps, aimer ses ennemis, ça veut dire les traiter convenablement tout en s'opposant à eux. Ce n'est pas facile. Je ne parle pas seulement des ennemis héréditaires des peuples, mais il faut aimer le voisin dont le chien vous réveille tous les matins, etc. Bon,
et oui, mais c'est plus quotidien, mais c'est ce qui nous concerne directement.
Ouais, c'est ce qui nous concerne, nous. Et donc, Judas est quelqu'un qui, dans l'imagerie traditionnelle, n'est-ce pas, a trahi Jésus, qui était l'amour même, et donc il incarne le mal profond. C'est pas quand on dit de quelqu'un c'est un Judas, c'est vraiment la pire des insultes, ou à peu près.
Mmh.
Alors donc je me suis intéressé à Judas pour cela, et d'autant plus qu'on a mis à jour, on a publié il y a un an et demi, quelque chose comme ça, un évangile de Judas, qui n'était pas écrit par Judas, bien sûr, mais c'est un texte qui a été écrit au milieu du deuxième siècle, vers l'année 150, par là, dont on connaissait l'existence, parce que souvent ces textes qu'on appelle apocryphes, on en connaît l'existence parce qu'ils sont cités par d'autres textes, mais on n'a pas le texte lui-même. Et celui-là, donc, ce texte a été retrouvé dans des circonstances un peu abracadabrantesques, comme aurait dit Jacques Chirac dans le passé. Mais peu importe, c'est un texte donc où Judas apparaît comme le complice de Jésus, en quelque sorte.
Oui, le disciple préféré de Jésus.
Jésus lui dit « Aide-moi à me débarrasser de cette enveloppe charnelle ». Et ça, c'est alors cette phrase-là, c'est une phrase qui est en contradiction totale avec ce que croient les chrétiens, puisque les chrétiens croient en cette chose extraordinaire qu'est l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus est à la fois, comme ils le disent dans leur prière, vrai Dieu et vrai homme.
Mmh.
L'incarnation, il n'y a quand même que le christianisme qui ose dire que quelqu'un qui est un véritable homme, qui a fait ses besoins élémentaires comme vous et moi, qui a galérer, sur les routes de Galilée, un peu plus que sur celles de la Judée d'ailleurs, soit un dieu en même temps. Et c'était une question vraiment très difficile. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la foi chrétienne, mais c'est ce qu'il y a de plus incroyable en même temps. Et donc, quand dans l'évangile de Judas, il dit « Aide-moi à me débarrasser de cette enveloppe charnelle », on lui fait dire cela, n'est-ce pas, à Jésus, ça veut dire qu'il n'était pas un véritable homme, qu'il avait pris un déguisement d'homme, en quelque sorte. C'est ce que les spécialistes... Vous savez, depuis le 1er siècle, pratiquement, ça a été le grand débat, ça a duré des siècles, 3 ou 4 siècles, où il y avait ce qu'on appelait les docètes. Les docètes étaient des gens, donc, qui... d'une manière ou d'une autre, expliquer que Jésus était sans doute un vrai Dieu, mais il avait pris et il s'était déguisé en homme pour venir délivrer son message sur la terre.
Mmh.
Et donc, l'évangile de Judas, donc, part de cette idée-là, hein, et on voit donc Judas être le complice de Jésus.
Oui, et prendre une place prépondérante, du coup.
Et le préféré, il y a une sorte de, j'allais dire, de Star Academy, non mais, il y a une sorte de test, vous savez que Jésus procède à une sorte de test, comme ça, parmi ses apôtres, et il trouve que le plus parfait de tous, c'est Judas. Et au nom de cette perfection, Judas accepterait donc...
D'endosser le rôle du traître,
c'est... évidemment, le pire des rôles. Et au long des siècles, finalement, il y a un certain nombre de gens qui ont repris un peu ce thème. Il y a un texte de Marcel Pagnol, qui est peu connu d'ailleurs, où Marcel Pagnol fait une prière. On le voit faire une prière à Dieu en disant « Eh bien, tu as voulu que je sois le traître, que j'incarne, etc. J'ai accepté ce rôle et tout ça. » Alors ça, c'est un peu le thème aussi de la prédestination de Judas. Enfin, il aurait été prédestiné. Il fallait absolument que Jésus soit trahi et il fallait que quelqu'un le trahisse. Et Judas, hélas, aurait été prédestiné pour cela. Bon, le thème de la prédestination, c'est contraire à tout ce qu'il y a dans les évangiles sur la liberté de l'homme, n'est-ce pas ? Ça, il y a nulle part, on ne dit que quelqu'un est prédestiné, ni dans les évangiles, ni dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible des Hébreux.
Oui.
On ne voit cela. Il n'y a pas de prédestination. Il y a parfois une vocation, c'est-à-dire Dieu appelle à tel prophète à se manifester ou lui dit des choses dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas de prédestination. Quelqu'un n'est pas condamné d'avance à avoir telle ou telle attitude.
Mmh.
Et donc, la question qui est posée là, par cette affaire-là, c'est de savoir quel est le sens de la mort de Jésus. Sorte. Parce que s'il est complice de Judas, s'il veut mourir, ça veut dire qu'il est venu en sacrifice, s'offrir en sacrifice, comme on l'a dit souvent et comme on le dit encore. Il y a des tas de gens qui disent
oui,
Jésus est venu s'offrir en sacrifice pour réparer les péchés du monde et notamment les péchés originels. Or, là, c'est une thèse à laquelle, je crois, tout ce qu'il y a dans l'évangile s'oppose absolument. Parce que Jésus n'était pas un homme qui aimait le sacrifice. On le voit, par exemple, se rendre au temple de Jérusalem. Au temple de Jérusalem, quelle est la fonction du temple de Jérusalem? C'est de pratiquer le sacrifice.
Oui, des moutons, des bœufs, des colombes, etc.
Voilà, on tombe, on vend des animaux, et puis on les sacrifie. Et déjà, on voit dans la Bible que le sacrifice humain avait interdit au moment de l'affaire d'Abraham, n'est-ce pas?
Devait sacrifier son fils.
Et il avait sacrifié son fils à la demande de Dieu, dit-on, et à ce moment-là, Dieu retient son bras. Ça, c'est la fin du sacrifice humain. Et ensuite, dans la Bible, on voit bien que l'on continue à pratiquer beaucoup de sacrifices, quoi qu'il y ait un certain nombre de prophètes, comme Osée notamment, qui font dire à Dieu, mais j'en ai assez de tous vos sacrifices, conduisez-vous bien. Enfin, il dit pas ça exactement dans les termes, je vous l'ai dit,
dans l'esprit, c'est ça.
Dans l'esprit, c'est ça.
C'est tout à fait ça.
Et alors, il dit, j'en ai assez des odeurs de viande grillée et tout ça, ça m'agace, c'est pas le problème, et tout ça. Et d'ailleurs, Jésus, quand il se rend au temple, pour revenir à ce que je disais, ne pratique le sacrifice, il prêche, et même, il chasse les marchands du temple. Alors, quand il chasse les marchands du temple, ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. C'est pas comme s'il se rendait à Lourdes ou à Fatima pour casser les vitrines de quelques marchands de bibelots, de vierges lumineuses, ou, vous savez, de ces petites...
Oui, autres petites bouteilles en plastique.
qui font de la neige quand on les retourne, etc. Non, c'est pas du tout ça. Les marchands du temple, c'était quoi? C'était des religieux, de l'époque, c'était des prêtres ou des lévites qui étaient un peu, si vous voulez, les auxiliaires des prêtres du temple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent l'argent impur du dehors, parce qu'il y a une obsession de la pureté à l'époque chez les juifs. Elle existe encore, mais beaucoup moins obsédante qu'elle ne le fut. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils changent l'argent impur qui vient de l'extérieur en argent pur qui est leur argent à eux, l'argent interne au temple.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Le pèlerin qui arrive là, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il achète, comme vous le disiez tout à l'heure, un animal, une colombe, un mouton, un taureau s'il est vraiment très riche, etc., qu'il veut sacrifier. Et... Donc, quand Jésus chasse les marchands du temple, c'est ça, il chasse l'essentiel de ce qui se fait dans le temple, de ce qui se pratique dans le temple. Il refuse le sacrifice. Alors l'idée que lui-même
se sacrifie
est une idée qui est contradictoire avec tout l'enseignement de Jésus. Alors, bien sûr, on peut dire que le mot sacrifice a deux sens, n'est-ce pas? Il y a un sens qui est celui-là, celui qu'on vient de dire, c'est-à-dire la monnaie d'un commerce avec Dieu. En quelque sorte, je sacrifie un animal, je fais du commerce avec Dieu.
Oui,
et d'ailleurs, Jésus dit, au moment où il chasse les marchands du temple, il dit que la maison de son père n'est pas une maison de commerce. Donc c'est clair, pour lui, il n'est pas venu mourir pour cela, pour échanger, pour que Dieu soit satisfait à cause de la mort de son propre fils qui est lui-même, soit satisfait et efface les péchés des hommes. Il y a un autre sens au mot sacrifice, c'est évidemment, par exemple, si on dit qu'une dame, une mère, se jette à l'eau pour sauver son enfant qui vient de tomber dans la rivière ou dans un lac ou dans une mare, ouais. Que sais-je. À ce moment-là, c'est la prise de risque. Hein. Je me sacrifie parce que je prends des risques. Et c'est le sacrifice de Jésus, et dans ce sens-là, il sait bien que quand il va à Jérusalem, la dernière fois, il sait bien qu'il prend des risques. D'ailleurs, quelques pharisiens, parce que tous les pharisiens n'étaient pas hostiles à Jésus, quelques pharisiens sont allés auparavant le dissuader en lui disant qu'il prendrait des risques s'il allait à Jérusalem pour la Pâque. Et il y va quand même. Alors c'est ça le sens du sacrifice de Jésus, c'est que il a pris le risque parce que c'est évidemment à Jérusalem et au Temple que bat le cœur d'Israël. S'il prêchait dans les villages de Galilée, c'est très bien, mais annoncer la bonne nouvelle dans le temple, c'est beaucoup plus important, surtout au moment de la Pâque, où il y a là des milliers de pèlerins qui viennent, puisque c'est une fête d'obligation, les Juifs, c'est une des fêtes d'obligation qu'ils ont, les Juifs de l'époque sont obligés, évidemment ils ne peuvent pas tous y aller, mais en principe, ils sont tous obligés de se rendre à Jérusalem pour la Pâque, c'est pour Jésus. Étant donné la mission qu'il a d'annoncer comment est Dieu, qui est le vrai Dieu, etc.
La tribune la plus efficace.
C'est la tribune la plus efficace. Et d'ailleurs, les jours qui précèdent sa mort, si on lit les évangiles, on voit bien que c'est ça qu'il fait. Il prêche.
Mais alors dites-moi, Jacques Duquesne, à ce moment-là, quel est le sens que vous donnez, vous, au sacrifice de Jésus sur la croix?
Eh bien, c'est ça. C'est qu'il a voulu... Si oui, on peut dire un double sens. Il n'a pas voulu mourir, mais il a accepté la mort. Et si l'on croit qu'il est ressuscité, on peut dire qu'il a vaincu la mort, bien sûr. Et d'autre part, il a accepté d'être homme jusqu'à la mort aussi. L'incarnation, je vous parlais tout à l'heure, je disais qu'il avait eu mal aux pieds, etc., etc., mais il est aussi, comme tout homme, mort. Ça veut dire que l'incarnation de Jésus, de ce Dieu, a été totale. Ouais. Voilà, c'est ça le sens de la mort.
Il voulait montrer la voie et donc c'était à lui de l'emprunter en premier.
Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que vous avez souligné que dans mon livre, il y avait un texte qui s'appelait « Le deuxième jour », au tout début de cette émission. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au deuxième jour, parce que je me suis interrogé, moi, sur les compagnons de Jésus, les apôtres et d'autres qui sont des disciples, des proches, et puis des femmes.
Parce et puis des femmes également.
Femmes, Jacques Duquesne. Qui accompagnaient Jésus, pas seulement Marie-Madeleine, il y en a trois ou quatre là, dont les noms sont donnés même.
Alors, Jacques Duquesne, une pause, on se retrouve justement pour rentrer de plein pied dans votre récit, cette sorte de huis clos tout à fait captivant que vous avez écrit. À tout de suite.
À tout de suite, merci.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Jacques Duquesne, l'historien, grand auteur, j'allais dire devant l'éternel, c'est un peu le cas, est en ma compagnie ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange à l'occasion de la publication de son livre intitulé Judas, le deuxième jour chez Plon. Alors, juste avant de se quitter il y a quelques instants, vous nous disiez justement, le deuxième jour, c'est le deuxième jour par rapport à la crucifixion du Christ.
Voilà, Jésus est mort, mais il n'est pas ressuscité, comme les apôtres le diront ensuite, le lendemain, et Marie-Madeleine et quelques autres. Donc
là, ils sont en plein désarroi, ils sont
en plein doute. Imaginez leur situation. Ces gens-là croyaient, comme beaucoup de disciples de Jésus, ces gens-là croyaient qu'en réalité, il était le Messie, et pour eux, le Messie, c'était quelqu'un qui devait prendre le pouvoir en Israël, et même au-delà d'Israël, éventuellement, s'il remplaçait l'empereur de Rome, ça serait pas plus mal.
Il avait une destinée réellement
politique
et sociale.
Pour eux, il avait une destinée temporelle. Il était l'envoyé de Dieu, mais pour prendre le pouvoir, pour devenir le roi. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que même après sa résurrection, il y en a quelques-uns qui le pensent encore, puisqu'ils lui demandent qu'il leur donne une belle place quand il sera roi. Mmh. Ils n'ont pas encore tout à fait saisi. Il faut bien voir que pour eux, ce qui vient de se passer est complètement inimaginable. Hein. Ce sont tous des juifs pieux qui croient que le Messie va prendre le pouvoir. Or voilà qu'il est, et qu'ils ont vu des actes qu'il a fait qui leur paraissent miraculeux, qu'il a soigné des gens, etc. Il a sauvé des gens de la maladie et tout cela. Et voilà qu'il se laisse faire. Hein. Il ne se défend pas vraiment parce que c'est un non-violent absolu. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est contre le sacrifice, c'est dans la même ligne. C'est un non-violent absolu. L'homme qui dit aimer vos ennemis ne peut être que non-violent. Il ne se défend même pas, il se laisse faire. Et eux, le lendemain, donc, ils sont cachés. Ils sont obligatoirement cachés parce que cette ville, bien sûr, les déteste. Parce que Jérusalem était une ville qui vivait du temple, qui vivait du culte. Et en attaquant le temple, évidemment, et le sacrifice, Jésus attaque pratiquement, y compris les petits artisans, les marchands de bibelots, etc. C'est une ville de pèlerinage, vous voyez, donc...
Oui, mais il menace de ruiner l'économie.
Et les grands prêtres du temple le haïssent plus que tous. Et donc, en plus, le jour de la Pâque, puisque le lendemain de la crucifixion, c'est le sabbat de la Pâque, là, on n'a pas le droit de sortir de Jérusalem. Donc, ils sont cloîtrés, en quelque sorte, dans Jérusalem. Et bien sûr, ils sont abasourdis et ils s'interrogent sur ce qui vient de se passer. Et bien sûr, il n'y a aucune ligne, nulle part, dans les textes évangéliques ou dans les épîtres, etc., sur ce sujet. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait le lendemain. On parle évidemment du surlendemain et de la résurrection, mais ce qu'ils ont fait le lendemain, il y a là-dessus un silence absolu. Alors je me suis interrogé, et là j'ai joué un peu plus au romancier, si vous voulez, qu'à l'historien, mais tout en respectant beaucoup l'histoire, c'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer les débats de quelques-uns, notamment Pierre, Marie-Madeleine, André, Philippe, trois ou quatre comme cela, et puis deux disciples qui passent par là, qui ne sont pas des apôtres. Et leurs débats, comme ça, ils sont enfermés dans une pièce. Et j'ai essayé de les imaginer, ces débats, non pas à partir de mes propres idées à moi, mais à partir des débats qu'ils ont eus par la suite, parce que même après la résurrection, ils ont eu pendant plusieurs décennies, on voit bien tout le premier siècle, tous les textes des épîtres et de ce qu'on appelle les actes des apôtres. Vous savez, c'est un texte qui a été écrit par l'évangéliste Luc pour sa plus grande partie, peut-être une partie ou l'autre qui n'a pas été écrite par Luc, c'est pas très clair. Mais en tout cas, dans les actes des apôtres, on raconte un peu ce qui s'est passé. La vie des premiers chrétiens, en quelque sorte, de ces gens-là, et les débats qu'ils ont eus pour savoir d'abord si Jésus était venu pour les juifs seulement ou pour ceux qui n'étaient pas juifs, et qui il était vraiment, est-ce qu'il était vraiment Dieu ou pas Dieu, et ça, c'est pas évident, évidemment, de croire que le personnage avec qui ils avaient partagé des repas, parfois très bons, mais parfois très pauvres, le personnage avec lequel ils avaient couché, un peu parfois à la belle étoile, parfois dans des granges, des huttes ou que sais-je, etc., de penser que c'était un dieu, ça, c'est quelque chose. Quand ils s'interrogent là-dessus dans mon récit, là, ils ne vont pas jusque-là. Ça, ils s'arrêtent, ils s'interdisent de penser, quand ils se demandent quelle est la nature de Jésus, et ils s'interdisent de penser qu'il était Dieu. C'est pas possible. Enfin, d'abord parce que pour Israël, Dieu est tellement transcendant pour les juifs de l'époque qui ne peut pas être homme en même temps.
Et puis ce sont des juifs très pieux.
Ce n'est pas imaginable, c'est rabaisser Dieu en quelque sorte. En plus, pour Israël, il est tout puissant. Et donc, voilà, quelqu'un qui est tout puissant et qui accepte de mourir, c'est quand même quelque chose aussi qui est inimaginable. Et puis s'il est Dieu, Israël s'est battu toujours pour le Dieu unique. pas croire en un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. Et si, s'il est Dieu, mais alors il est Dieu lui aussi, mais il y a aussi le Père, le Fils. Mmh. Et, ben, l'idée du Fils n'est pas très claire non plus. Donc ces gens-là s'interrogent et ils s'interdisent même d'aller jusqu'au bout de leur pensée et de penser qui est Dieu. Or, il y a eu quand même quelques phénomènes qui se sont passés dans leur histoire avec Jésus, qui sont assez extraordinaires. Par exemple, vous connaissez, tout le monde connaît, ou à peu près, l'épisode où Jésus, un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour où pour les Juifs, on n'accomplit pratiquement aucun geste.
Même pas couper des fleurs.
Et un jour de sabbat, donc Jésus et ses compagnons passent près d'un champ de céréales, là, on dirait du blé aujourd'hui, et se mettent à frotter les épis parce qu'ils ont faim et qu'ils mangent. Bon, il y a là quelques pharisiens qui sont là. Alors ça, ce sont les pharisiens adversaires de Jésus, et ces gens-là protestent, disent « Comment ? Qu'est-ce que vous faites ? Un jour de sabbat, on n'a pas le droit de bouger, etc. » Jésus leur répond « Oui, mais les prêtres dans le temple, ben, ils bougent quand même. C'est vrai que le jour du sabbat,
c'est même le jour où ils bossent le plus. »
Ça, c'est un argument un peu... bon, c'est un argument qu'on peut juger un peu simplet, mais enfin, bon, c'est un argument. Mais il ajoute, et ce qui est bien plus fort, il ajoute, mais il y a ici plus que le temple. Alors, pour les Juifs, c'est quelque chose d'inconcevable. Ici, plus que le temple, c'est pas le champ de blé ou de céréales quelconque qui est le plus que le temple. C'est pas eux qui sont plus que le temple. C'est-à-dire, c'est lui qui est plus que le temple. Mmh. Et le temple, pour les Juifs, à l'époque, est toujours, bon, le temple, c'est quelque chose d'extraordinaire, le temple. C'est là que Dieu est présent. Et mystérieusement absent en même temps, parce qu'on peut pas enfermer Dieu dans les blocs de pierre, entre quatre blocs de pierre. N'est-ce pas ?
Non, mais c'est éminemment sacré. C'est
vraiment... Alors, c'est éminemment sacré. Alors, il dit que lui, il est supérieur au temple. Ouais. Et il ajoute d'ailleurs là une phrase, comme par hasard, dans l'évangile, il ajoute là une phrase du prophète Osée, dont je parlais tout à l'heure avant la pause, là, contre le sacrifice, justement. Ce qui est curieux, parce que on se demande même si, parfois, si cette phrase n'a pas été rajoutée après, parce que c'est pas le sujet du débat, si vous voulez. Mm-hmm. Mais enfin, bon, il se dit plus fort, plus important que le temple. Pour un juif normal, c'est inacceptable. Et de la même manière, quand il fait ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, n'est-ce pas, il dit... On vous a dit, moi je vous dis. C'est-à-dire qu'il met en question la loi, ce que les juifs de l'époque appellent la Torah. Il la met en question fortement. Pas tout à fait, ça dépend, c'est variable. D'ailleurs, il y a un contemporain américain qui s'appelle Neusner, là, qui a écrit un livre il y a quelques années. C'est un juif américain, très érudit. Qui a écrit un livre il y a quelques années où il parle de cette affaire de la Torah. Et ce livre, d'ailleurs, va être publié en France très prochainement parce que, figurez-vous, que le pape Benoît XVI, dans son livre sur Jésus, l'a cité, ce livre. Alors, du coup, en France, on s'est dit, tiens, on ne connaissait pas ce livre, il faudrait s'y intéresser. Et donc, il est en voie de traduction et va bientôt paraître. Et ce monsieur Neusner, donc... imagine dans ce livre qu'il a assisté au discours, au sermon sur la montagne. Et il est là parmi, il imagine qu'il est là parmi un petit groupe d'autres juifs, d'autres hébreux qui ont assisté comme lui à ce sermon. Et le soir, ils discutent entre eux. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a ajouté quelque chose à la Torah ? Oui, pas grand-chose, il n'a pas vraiment changé. Est-ce qu'il a retiré quelque chose à la Torah ? Oui, pas grand-chose, il n'a pas vraiment changé. Mais il a dit que c'était lui la Torah. Alors ça, c'est extraordinaire. Jésus dit, tel que l'interprète Neusner interprète ce discours, dit que la loi, désormais, c'est lui. Or, la Torah, la loi, pour les Juifs, c'est la loi que Moïse a reçue
de
sur
Dieu
le Sinaï.
Oui.
C'est vraiment quelque chose d'aussi sacré que le temple. Donc il y a une prétention, vue par eux, de Jésus, qui est extraordinaire, qui est de dire qu'il est au-dessus du temple, qu'il est la Torah lui-même et tout ça. C'est, pour la plupart des Juifs pieux, c'est inacceptable. Alors il y en a quelques-uns, ceux qui seront, d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'Évangile, on voit que des groupes le quittent comme ça, mais il y en a quelques-uns qui restent fidèles jusqu'au bout avec lui. Mais cela, quand même, s'interroge beaucoup. Et le problème que l'on peut imaginer pour Judas, c'est le suivant, c'est que Judas, qui est un juif pieux comme eux, parce que, bon, poursuivre Jésus dans toutes ses pérégrinations et les difficultés de leur vie, comme je l'ai dit, parfois ils étaient reçus à dîner chez l'un ou chez l'autre, c'était sympathique, mais d'autres fois ils avaient faim, et il y a même des récits où l'on voit qu'ils avaient faim. Par exemple, quand Jésus rencontre la Samaritaine, qui est un épisode bien connu de l'Évangile, on voit que tous, pendant ce temps-là, sont partis au village voisin et essayer de trouver à manger.
Jésus
est seul là, au bord du puits avec la Samaritaine.
Et il remet encore une fois de plus, d'ailleurs, en cause les lieux de culte, que ce soit pour les Samaritains ou le temple.
Absolument, il remet complètement. Et puis les Samaritains, d'abord parler avec une Samaritaine, c'était quelque chose qui était tout à fait inconvenant pour la plupart des Juifs. Et donc, ces Juifs pieux qui ont suivi Jésus jusqu'au bout, Judas en fait partie. Quand
alors
même.
Justement, Jacques Ducanne, une pause et on va s'attarder sur le dossier Judas l'Iscariote dans Les Aventuriers de l'Étrange. À tout de suite.
Sud Radio, Les Aventuriers de l'Étrange.
Jacques Ducanne, parlons maintenant de Judas l'Iscariote. Alors, qui était ce personnage? Présentez-le-nous, du moins ce que l'on en sait.
On ne sait pas grand chose de lui. Le mot l'Iscariote, d'ailleurs, est un terme qu'on a essayé d'expliquer de diverses manières. On a expliqué en disant, bon, Judas l'Iscariote, il vient d'un village qu'on appelle Cariote. Mais on n'a jamais trouvé ce village qu'on appelle Cariote. Donc,
on ne sait pas trop pourquoi on l'appelait comme
c'est
ça.
C'est pas
alors.
Clair. On a dit, c'est peut-être le fils d'un monsieur qui s'appelait Iscariote. En réalité, comme l'évangile de Jean, je crois, donne le nom du père de Judas qui s'appelait Simon, c'est pas Iscariote non plus. Alors, il y a une traduction en latin, il y a un mot latin qui dit Sicarius. Sicarius sera, c'est quelqu'un qui porte un poignard.
Le sicaire, c'est ça.
Ah oui, un sicaire. Ouais. Alors donc, évidemment, Judas étant un traître, pourrait avoir été appelé plus tard l'Iscariote, comme ayant trahi Jésus. Bref, on ne sait pas ce que veut dire l'Iscariote. Et d'ailleurs, il y a un exégète américain encore, parce que vous savez, les exégètes travaillent beaucoup sur toutes ces questions, les spécialistes de l'étude des textes sacrés, comme ça, travaillent beaucoup sur toutes ces questions.
Ouais.
Et il y en a un très grand qui a conclu en disant, peut-être bien que les gens qui ont écrit les évangiles ne savaient pas davantage que nous ce qui était l'Iscariote. Voilà.
Le dossier classé, donc.
ça me paraît être une bonne conclusion. Alors, bon. Ce qui est clair, c'est que Judas tenait les comptes
de la communauté.
C'était un peu le trésorier de la communauté. C'est intéressant parce que ça aurait dû être Lévi, qui est appelé aussi Matthieu, qui était lui un percepteur, comme vous le savez, un douanier, et donc on pourrait penser que c'est à lui qu'aurait été confié ce rôle. En réalité, c'est Judas qui a eu ce rôle. C'est pas un rôle très agréable, parce que, par exemple, quand ils ont faim, nous en parlions avant la pause, et que Jésus rencontre la Samaritaine et que tous s'en vont au village voisin, ils doivent s'en prendre à l'intendant en disant « tu aurais pu prévoir ». Et donc, c'est pas un rôle facile, et d'ailleurs, dans mon récit, déjà, j'ai imaginé que Simon Pierre se dise quand même, on n'a pas toujours été gentil avec lui.
Non, notamment avec l'histoire de ce parfum qui était excessivement cher.
Alors lui, on le présente comme quelqu'un qui est assez avare, disons, puisque quand une dame, il y a deux récits de là-dessus, de cette dame pécheresse ou pas pécheresse, suivant les récits, qui vient répandre du nard sur les pieds de Jésus. Et le nard, c'est un parfum très cher, puisqu'on le fabriquait à partir de plants qui venaient de l'Himalaya. Vous pensez aux convois qui viennent de l'Himalaya jusqu'à cette partie de l'Orient.
Oui, on imagine le prix.
On imagine facilement le prix. Ouais. Et alors, Judas, selon Jean, l'évangile de Jean est celui qui est le plus sévère toujours avec Judas. Judas, selon Jean, dit avec cet argent, on aurait pu aider beaucoup de pauvres, etc. Tandis que dans les autres évangiles, c'est pas Judas. Ça, ce sont les compagnons de Jésus, en gros, qui pensent ça. Mais Jean est toujours très très sévère avec Judas. Mais à la fin, d'ailleurs, il explique aussi Jean que Judas tapait dans la caisse, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire qu'il prenait un peu d'argent pour lui. Mais pourtant, c'est lui, Jean, qui dit que lors du dernier repas, quand Judas s'apprête à trahir Jésus, il dit « le diable entra en lui ». Donc il est à la fois, il le présente comme méchant, cupide, avaricieux, etc. avant, et à la fois quand même, il raconte que le diable entre en lui au moment du dernier repas, le dernier soir, avant le dernier jour.
Et donc, mais bon, en même temps, c'est un écrit postérieur au...
Ah oui, Jean, le texte de Jean, c'est le...
Tout à fait d'accord.
Ah oui, ça, oui, le texte de Jean, c'est la quatrième version d'un texte premier qu'on connaît pas, et il a été publié, écrit vers la naissance, à la fin du premier siècle.
Oui, oui. Voilà. Donc, on peut imaginer que déjà,
oui, on en avait rajouté un peu pendant ce temps, si vous me permettez l'expression. C'est vrai que ce texte de Jean est très passionnant parce qu'il est très élaboré théologiquement, c'était vraiment c'est un texte très théologique, il y a beaucoup de réflexions sur ce qui sont dites là, et sur la nature de Dieu, de Jésus, sur ses relations avec son Père, etc. C'est un très beau texte, le texte de Jean, mais en même temps, sur le plan historique, il y a parfois là, il y a parfois des choses très précises, et il y a parfois des choses dont on peut se demander si... Bon, ce sont pas des ajouts qui ont été faits par quelqu'un.
Jacques Duquesne, comment et quand est-ce que Judas l'Iscariote a rejoint Jésus et la communauté?
Ah ben, on ne sait pas très bien.
Ça aussi.
Et il apparaît là soudain et il est cité plusieurs fois. Il y a des apôtres qui ne sont jamais cités sauf dans la liste des apôtres. Il y a d'ailleurs deux listes d'apôtres qui correspondent pas. Mais il y en a un, par exemple, comme Barthélemy, voilà quelqu'un qu'on ne cite jamais. Il y a son nom dans la liste, puis après, ce qu'il a fait ou pas fait, on ne sait pas. Mais Judas, lui, bien sûr, on en parle à plusieurs reprises. Et alors, pourquoi a-t-il trahi Jésus? On peut s'interroger là-dessus, bien entendu. Est-ce que c'est pour l'argent? Vous savez, le texte dit que... Un texte dit 30 deniers, en général, maintenant, on a tendance à dire plutôt 30 sicles. Bon, les monnaies de l'époque étaient très complexes, très compliquées, parce qu'il y avait plusieurs monnaies qui s'étaient surajoutées, y compris celles des Romains, ce qui simplifiait pas la chose. Mais 30 deniers, en tout cas, ou 30 sicles, c'est pas grand-chose.
C'est même rien. Enfin,
c'est quelques mois de salaire d'un ouvrier agricole. Et soyez assurés que les ouvriers agricoles, à l'époque,
touchaient pas grand-chose.
N'étaient pas très bien payés.
Vous faites un parallèle, d'ailleurs, dans votre livre. Il y a juste de quoi acheter un esclave pas trop chétif et de taille moyenne.
Voilà, exactement. C'est vraiment pas grand-chose.
Non, c'est pas le loto, quoi.
Et si Judas prenait de l'argent dans la caisse auparavant, on voit pas très bien pourquoi ces 30 deniers Donc, en réalité, ces 30 deniers ou ces 30 cycles se réfèrent à un texte de l'Ancien Testament, enfin de la Bible ancienne, où il est question d'une complexe histoire de bergers que je ne vais pas vous raconter parce qu'il me faudrait 3 heures pour essayer de l'expliquer. Oui. Une complexe histoire des bergers, de bergers à qui Dieu parle et dit qu'il a été évalué à 30 cycles. Vous voyez. Donc on peut penser que cette histoire de 30 cycles se rapporte à l'Ancien Testament parce que c'est évident que les gens qui ont écrit les évangiles avaient tendance à montrer que tout ce qui est arrivé était prévu par l'Ancien Testament, que c'est pas une rupture totale.
Donc, historiquement, c'est déjà...
Ça, c'est douteux. Oui.
Ouais,
alors, que ce soit pour cet argent-là qu'il l'ait fait, c'est douteux. Moi, je pense tout simplement que... Alors, il y a eu d'autres thèses, hein. Vous savez, il y a des thèses suivant lesquelles Judas a été envoyé dès le début pratiquement par les grands prêtres pour servir d'espion et un jour trahir, etc. Bon, tout ça, ce sont des thèses très hypothétiques, très aventureuses, ce sont des thèses de romanciers. Moi, ce qui me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus logique, c'est que Judas, qui est un juif pieux, se dit, attention, ce que dit Jésus, ça met en cause la Torah, comme je le disais tout à l'heure, la loi,
oui.
Ça met en cause le Dieu unique tel que nous le considérons, et il voit bien qu'il y a quand même une rupture là, entre ce qu'il a appris et ce en quoi il croit, et ce que Jésus dit, et peut-être le pense-t-il peut-être, je ne vais pas dire qu'il est plus intelligent que les autres, mais enfin, il en tire davantage les conséquences plus rapidement. C'est là qu'au fond est le vrai problème, si vous voulez. C'est que le christianisme est né du judaïsme, mais en même temps, comme toute révolution, c'est une révolution le christianisme par rapport au judaïsme, ben, on garde des traits du système précédent ou des croyances
bien
précédentes.
Sûr.
C'est comme un gant, finalement. Finalement, si on retourne, supposons que le judaïsme soit un gant. Je m'excuse pour cette image, mais enfin, bon, supposons. Et si on le retourne, on a le christianisme, c'est toujours un gant, mais c'est pas le même côté du gant,
en quelque sorte.
On a toujours affaire, on est toujours dans la même ligne du Dieu unique, etc. Mais on dit des choses qui sont très différentes. Et moi, il me paraît crédible et logique que Judas se dise, comme les grands prêtres, on ne peut pas supposer que tous les grands prêtres, tous les pharisiens étaient des fourbes, des méchants, etc. Mais ce sont des gens qui disent, attention, ce que dit ce monsieur est contraire à notre foi à nous, à notre culte à nous, à nos habitudes à nous. Alors les grands prêtres, en plus, c'est vrai qu'ils vivaient pas mal avec l'argent du sacrifice.
Oui, ça allait bien pour eux.
L'argent du temple. Donc là, en les attaquant, Jésus tapait à la caisse, si vous me permettez cette expression. Mais
vous dites, Jacques Duquesne, à la fin de votre réflexion, le post-propos, comme vous l'avez intitulé, le refus, là c'est, vous parlez de Judas, le refus d'être arraché à ses racines, de changer de culte, de perdre sa foi et celle de ses ancêtres, de la voir mourir autour de lui. Judas, juif très pieux, s'est dressé contre Jésus parce qu'il voyait poindre le premier, peut-être, l'aube de la révolution chrétienne. Ça, c'est votre hypothèse.
Ah oui, absolument. Oui. Là, vous voyez, j'ai mieux écrit que je ne parle. Vous faites bien de me citer. C'est absolument mon hypothèse. On ne peut pas, il faut lui accorder la présomption d'innocence. On ne peut
pas imaginer
que lui souhaitait la mort de Jésus et que Jésus soit flagellé, torturé, etc. Tout ce que l'on connaît de ce qu'a souffert Jésus ce jour-là. Mais on peut penser qu'il est dit, ben il faut le mettre à l'écart, quoi. Voilà.
Ouais. Mais pourtant, là où je vous porte la contradiction, c'est que Judas a accompagné Jésus pendant pas mal de temps. Il a adhéré à son discours, l'a même défendu, soutenu. Donc c'était pas une nouveauté pour lui, ça.
Oui, mais chacun peut évoluer. Je veux dire, à mesure qu'on avance dans l'histoire, n'est-ce pas, le message de Jésus se fait de plus en plus précis. Et notamment, justement, dans les derniers jours, là, quand ils sont au temple à Jérusalem, où Jésus prêche tous les jours, là, évidemment, ce qu'il annonce, ce qu'il fait, est l'affaire des marchands du temple, dont je vous dis, dont je considère que c'est pas un épisode accessoire de l'histoire de Jésus. C'est un épisode essentiel, puisqu'il, en chassant les marchands du temple, encore une fois, c'est pas comme s'il avait cassé quelques vitres à Lourdes. C'est vraiment là, absolument, mettre en cause tout le culte juif. Et donc, là, c'est peut-être ça qui déclenche. Ouais.
Ça a précipité la réflexion de Judas.
Ça précipite la réflexion de Judas, qu'on peut imaginer s'être prolongée peu à peu. Comme je le disais tout à l'heure, on voit bien qu'à divers moments de la prédication de Jésus, mais alors avant même qu'il vienne la dernière fois à Jérusalem, là, il y a des groupes qui le quittent parce qu'ils disent ce qu'il dit est trop fort, c'est trop contradictoire avec ce qu'on nous a appris, etc. Donc on voit bien qu'il y a des dissidents comme ça quittent son mouvement peu à peu. Et alors quand il arrive à Jérusalem, évidemment, il est assez bien, il arrive avec une troupe de Galiléens qui viennent parce que c'est la Pâque, ce sont des pèlerins galiléens. Et les Galiléens, bon, il y a plus de gens qui suivent Jésus parmi les Galiléens que parmi les Judéens. Vous voyez, la Galilée est au nord, la Judée au sud. Et les Judéens, en plus, n'aiment pas les Galiléens, en plus que... Alors, Jésus est un Galiléen. Déjà, c'est presque une faute. pour eux. Et donc, bon, il arrive là. Bon, il y a l'épisode du dimanche des Rameaux, où on a parfois l'impression qu'il y a une foule extraordinaire qui l'a... etc. Ça, c'est moins sûr, c'est pas évident. Il arrive là à la tête d'un pèlerinage. Et donc, ben, Judas, là, est encore avec lui, mais l'écoutant tous les jours, ces gens-là, ils peuvent pas tous loger dans Jérusalem, donc le soir, ils logent en général sur le Mont des Oliviers, beaucoup. Il s'installe sous des tentes sur le Mont des Oliviers. Là, bon, on peut imaginer que là, Jésus et ses compagnons et des débats, on peut pas l'imaginer, on en est certain. Ils ont des débats sur ce que Jésus dit, etc. Et on peut penser que la conviction de
Judas s'est faite à ce moment-là.
Ça fermit à ce moment-là.
Mais dites-moi, Jacques Duquesne, l'hypothèse selon laquelle, en fait, il serait complice de Jésus, parce que peut-être que Jésus avait compris qu'il fallait qu'il meure pour ressusciter, et donc il lui fallait une aide extérieure pour vraiment que son discours, en devenant, si je puis dire, martyr pour sa cause, que son discours se cristallise autour de cet événement. Donc il lui fallait un apport extérieur. Cette hypothèse ne vous...
Non, moi j'y crois pas beaucoup parce que, après tout, il se pose une vraie question, c'est fallait-il que Judas existât pour que la police du temple se saisisse de Jésus? C'est pas tout à fait évident. Alors, première réponse, c'est vrai que arrêter Jésus dans la journée quand il prêchait, ça pouvait susciter des troubles. Et il faut jamais oublier que les Romains étaient très tendus à l'époque de la Pâque, au moment où cette foule arrive là à Jérusalem. Il y avait eu des incidents dans le passé, etc. Et d'ailleurs, Pilate, qui n'habite pas là, qui habite en temps ordinaire à Césarée, sur la côte, vient à Jérusalem pour la Pâque, parce que là, il faut être là, parce qu'on ne sait jamais
ce qui peut arriver,
il peut y avoir des troubles. Donc, arrêter Jésus dans la journée, ça peut poser des problèmes, c'est difficile. Mais, à la rigueur, on pourrait imaginer que des policiers du temple, puisqu'il existait une police du temple, aient suivi Jésus le soir, n'est-ce pas, pour savoir où il allait passer la nuit et l'arrêter la nuit.
Franchement, ça ne devait pas être très compliqué non plus,
ça parce qu'il ne se cache pas vraiment. Ça ne devait pas être très compliqué, mais quand même dans la foule, Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu des journées là très compliquées à vivre pour Jésus et pour ses compagnons. Il devait surveiller chaque fois les abords pour voir si quelqu'un venait, etc.
Ouais.
J'ai vraiment le sentiment, d'ailleurs on voit bien que le dernier soir, il y a un réseau de soutien, si on peut appeler ça ainsi, dans Jérusalem. Il y a quelques personnages, comme Nicodème notamment, qui aident un peu Jésus. Mais enfin, le dernier soir, ce dernier repas, c'est presque un repas clandestin, en quelque sorte.
C'est un repas clandestin, tout à fait. Oui.
Et donc, c'est qu'il y avait un problème et qu'il fallait que la police des grands prêtres soient. C'est plus simple d'avoir un indicateur parmi les compagnons de Jésus pour arrêter.
Ouais. Arrêter. Alors admettons, je vous suis sur votre hypothèse, je laisse tomber la mienne, celle de Judas complice de Jésus, ou plutôt qui l'aide à réaliser, justement à cristalliser toute cette religion naissante. Mais alors, que devient Judas après?
Alors là, on n'a rien de sérieux sur ce,
non plus.
Sur ce problème. Il y a deux récits. Il y a un récit qui dit qu'il s'est pendu.
Oui.
Et c'est pas très crédible parce que si c'est un juif pieux, les juifs exécrèrent le suicide. Vraiment, parce que la vie est donnée par Dieu, donc si on se suicide, c'est un acte qui est d'hostilité à Dieu, en quelque sorte.
Tout à fait.
Ils exécrèrent le suicide. Donc, l'hypothèse suivant laquelle il se pend est une hypothèse qui est difficilement crédible, mais enfin qui a été très répandue et qui court encore aujourd'hui, évidemment. Il y a un deuxième récit qui a été fait à peu près à l'époque, sur lequel il a acheté un terrain avec les 30 deniers ou les 30 sicles qu'il a reçus, là, et que, ayant acheté ce terrain, il va le visiter, et il tombe sur une pierre pointue, et ses entrailles se répandent. Alors, bon, ça, après tout, c'est possible, encore qu'avec l'argent qu'il avait reçu, le terrain n'était pas très grand. Mais, surtout, ça, on voit souvent dans l'Antiquité, pas seulement chez les Juifs, on voit souvent dans l'Antiquité des traîtres ou des méchants qui meurent de cette sorte, n'est-ce pas, en tombant sur un rocher. C'est toujours par les entrailles que les méchants sont punis.
Ça sent la référence littéraire, vous voulez dire.
Ça sent la référence littéraire.
Réchauffé, quoi. Ouais.
Alors là, on peut aussi bien, là, il faut être prudent et sérieux. On peut aussi bien imaginer qu'il est rentré chez lui et qu'il a continué paisiblement sa vie.
Tout à fait.
Voilà. Et alors, d'ailleurs, il faut signaler que parmi les évangiles apocryphes, vous savez, tous ces textes
qui n'ont pas été retenus par l'Église catholique,
Par les Églises chrétiennes, tous ces textes qui sont souvent postérieurs aux évangiles, qui sont souvent du deuxième siècle, voire du troisième, du quatrième, quelques-uns. Il y a plusieurs récits qui concernent Judas et la vie de Judas. Et alors, ce sont des récits où la femme de Judas joue un rôle terrifiant. Enfin, c'est elle le diable.
C'est elle qui le pousse, hein, en fait.
C'est elle qui le pousse à faire les pires choses, à trahir, etc. Allez, vraiment, ce sont des récits très antiféministes.
Oui, parce que c'est encore la femme qui porte le poids du péché, évidemment.
Voilà. Et même le coq aussi joue un rôle dans un de ces... Vous savez, le fameux coq qui a chanté quand Pierre a renié Jésus par trois fois. Le coq aussi joue un rôle dans ces évangiles. Même il ressuscite dans un de ces évangiles.
Ouais.
Donc là, on peut pas accorder beaucoup de sérieux.
Il y a une dernière hypothèse. Qui peut être extrêmement audacieuse, voire farfelue, c'est vous qui allez me le dire. Et si tout simplement Judas n'avait pas existé et qu'il fallait essayer de personnifier justement le mal qui a lutté contre Jésus, et que ce soit le fait de d'auteur en fait.
Oui, je ne dirais pas que c'est farfelu, mais
Oui, ça.
J'ai tendance à penser qu'il a existé, si vous voulez, qu'il y ait eu quelqu'un qui ait dit au grand prêtre, après tout, dans la logique de la tension qui régnait entre le groupe de Jésus les grands prêtres, qu'il ait existé quelqu'un qui ait dit au grand prêtre, ah ben, si vous voulez, vous en charger, le tenir à l'écart, et le mettre à l'écart, etc., et l'empêcher, etc. Ça paraît assez logique parce que c'était quand même quelqu'un, Jésus, qui remettait en cause...
Tous les fondements même
du système
à cette époque-là, bien sûr.
La fois le pouvoir politico-religieux des grands prêtres et à la fois le culte et la manière dont il était pratiqué. Et à la fois la Torah, ça faisait beaucoup de choses quand même.
Et qui offrait en règle générale la liberté à ceux qui marchaient vers la foi.
Évidemment. Et quand on pense qu'à l'époque, c'est vrai qu'il existait des rabbis, comme on disait, qui prêchaient comme ça, qui allaient de village en village pour prêcher la foi, etc. Aucun d'entre eux de l'époque, d'après ce que l'on sait, évidemment, d'après les textes juifs que l'on connaît, aucun d'entre eux à l'époque n'est allé aussi loin que Jésus dans la contestation. C'était une contestation beaucoup plus radicale, évidemment.
Ouais. Jacques Duquesne, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours
c'est moi qui vous remercie.
C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec vous. Donc je rappelle le titre de votre livre que je recommande chaudement à ceux et celles qui nous écoutent. Judas, le deuxième jour, aux éditions Plomb. Que puis-je vous souhaiter pour cette année 2008, hormis la santé, le bonheur et la réussite?
De continuer à réfléchir sur le mal, sur le problème du mal.
Oui.
En ce moment, je m'intéresse assez au diable.
Bon, personnage fascinant en tout cas.
Oui. Et l'histoire du diable m'a l'air assez compliquée également.
Très bien. Ben écoutez, vous avez votre couvert, toujours mis à table des aventuriers de l'étrange. Donc vous venez quand vous voulez.
Peut-être à l'an prochain.
C'est avec grand plaisir en tout cas.
Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée. Au revoir.
Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.